Excellent réveil à tous, voici le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La visite d'un chef d'État contesté en France aujourd'hui, le président égyptien Al-Sisi est reçu à l'Élysée. C'est un partenaire stratégique de Paris, selon Emmanuel Macron. Les ONG de lutte pour la défense des droits de l'homme exhortent le président français à évoquer le sort des milliers d'Égyptiens enfermés dans les geôles du pays pour leurs opinions. Nous entendrons dans ce journal Ala Alassouani, célèbre intellectuel et écrivain égyptien exilé à New York.
Et puis dans ce journal également, le premier volet de l'enquête réalisée par le consortium Forbidden Stories sur la mort en 2012 de la journée. Journaliste Regina Martinez qui enquêtait sur la corruption au Mexique. Une enquête qui s'appelle Projet Cartel avec l'aide de la cellule investigation de Radio France.
Nous irons au Venezuela où les premiers résultats des élections législatives viennent de tomber. Sans surprise, c'est le parti de Maduro qui l'emporte malgré une très forte abstention.
Et puis en France, les assureurs sont reçus ce matin par Bruno Le Maire qui les a sommés de geler leurs primes pour les restaurateurs l'année prochaine.
Enfin, le futur texte de la loi climat doit être présenté aujourd'hui aux citoyens de la Convention pour le climat qui sont déjà déçus, nous le verrons. 10 ans après les printemps arabes, que sont devenues les aspirations des millions de manifestants qui avaient défilé place Tahrir en Égypte? La question se repose aujourd'hui alors que le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, celui qui a destitué le président élu issu des frères musulmans Mohamed Morsi, est reçu à Paris. Al-Sissi qui a réprimé férocement les mouvements islamistes et les critiques du pouvoir égyptien. Les ONG estiment qu'ils sont 60 000 à dormir en prison. Amnesty International dénonce par exemple l'utilisation systématique de la détention provisoire envers tout Égyptien considéré comme opposant politique. Détention provisoire quand ce ne sont pas des exécutions dont les défenseurs des droits de l'homme estiment là encore qu'elles se sont accélérées ces derniers mois. En sera-t-il question lors de cette visite entamée hier par le président égyptien? L'Élysée préfère mettre en avant la relation stratégique et la longue coopération sur plusieurs sujets d'importance entre la France et l'Égypte. Claude Guibal.
L'exercice relève à chaque fois du grand écart pour la France. Comment concilier vouloir apparaître comme le pays des droits de l'homme et de la liberté d'expression, tout en déroulant le tapis rouge à Abdel Fattah al-Sissi, président d'une Égypte marquée par une répression galopante? La raison, c'est ce fameux partenariat stratégique entre Paris et le Caire. Un partenariat marqué par des intérêts économiques et militaires, notamment devant lesquels la question des droits de l'homme n'est pas une priorité affichée. La France prône une diplomatie discrète, mais sans grand résultat. Lors de sa visite en Égypte l'an dernier, Emmanuel Macron avait pourtant fini par manifester sa préoccupation, s'attirant une réponse cinglante de son homologue égyptien. Et depuis, la lune de miel marquée par les énormes ventes d'armes françaises à l'Égypte en 2015 a quelque peu pâli. L'Égypte maîtrise le rapport de force. Le souvenir amer des printemps arabes, suivi de l'arrivée au pouvoir des islamistes, est un levier utile pour Abdel Fattah al-Sissi, qui sait combien la stabilité du pays est jugée essentielle pour tout le Proche-Orient. Lui qui a juré qu'il ne laisserait jamais se reproduire un nouveau soulèvement, muselle aujourd'hui toute voix critique au nom de la lutte antiterroriste, argument massu brandi face à tous ceux qui n'osent pas s'aliéner un partenaire aussi précieux.
Claude Guibal, Emmanuel Macron peut et doit parler des droits de l'homme en Égypte, ça n'est pas incompatible avec les intérêts de la France, c'est en tout cas ce que pense l'un des écrivains et intellectuels les plus célèbres d'Égypte, en exil à New York, interdit de presse et de publication dans son pays, Ala Alassouani, auteur de l'immeuble Yacoubi et de « J'ai couru vers le Nil ». Il était hier sur France Culture. Il répondait à Frédéric Martel dans Soft Power sur la nécessité pour le pays des droits de l'homme de réaffirmer ses principes lors de ce genre de rencontres. Écoutez-le.
Je comprends très bien que M. Macron et le président de la République ne présentent pas seulement les principes de la France, mais aussi ils présentent les intérêts de la France. Mais moi, je pense qu'on ne doit pas oublier les principes. Et je dois aussi dire que, en défendant les principes de la République, on peut bien avoir les intérêts. Les deux côtés ne sont pas contradictoires.
Vous êtes exilé à New York. Cela veut dire que vous avez préféré partir pour votre sécurité, pour votre liberté d'expression, que vous avez pu rentrer dans votre pays?
Dès que M. Sisi est arrivé au pouvoir, j'ai été interdit d'écrire dans tous les journaux égyptiens. Et après, j'étais interdit de publier mes livres. Et après, à cause de mon dernier roman, J'ai couru vers le Nil, j'ai été poursuivi devant tribunal militaire. Je suis interdit en Égypte. Il n'y a pas tellement de justice parce que les jugements sont souvent décidés avant le tribunal.
L'écrivain égyptien Alaa Al-Aswani, le président égyptien, sera lui reçu à 10h30 à l'Élysée avant un dîner. Une rencontre limitée pour la presse pour cause de Covid, selon l'Élysée. Deux jours de discussions supplémentaires pour tenter d'arracher un accord post-Brexit. Hier à Bruxelles, les négociateurs des deux parties ont recommencé donc à négocier après des mois d'impasse pour tenter d'éviter un no deal qui aurait de lourdes conséquences économiques. Et il y a quelques minutes, Michel Barnier informé qu'il n'y avait toujours pas d'accord à l'heure qu'il est. Les trois sujets qui bloquent, on le rappelle, la pêche, les règles de concurrence et le mécanisme de respect des litiges. Un entretien téléphonique est prévu cet après-midi entre Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Son histoire est emblématique de la violence des cartels et de la corruption au Mexique, l'histoire de Regina Martinez, journaliste mexicaine tuée en 2012, officiellement suite à un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais le consortium Forbidden Stories, un réseau de journalistes qui publie ou continue le travail de journalistes menacés partout dans le monde, a mené son enquête aidée de 25 médias partenaires dont la cellule investigation de Radio France. C'est le projet Cartel qui met en lumière 20 ans de violence meurtrière contre les journalistes. Journalistes au Mexique, 119 journalistes y ont été tués, en effet. Parmi eux, donc, Regina Martinez qui enquêtait sur ce qu'il convient d'appeler la narcopolitique. Les précisions d'Abdelhak El Idrissi de la cellule investigation de Radio France.
Regina Martinez travaillait pour Proceso, un journal d'investigation nationale. Elle est morte, étranglée chez elle en 2012. Et son meurtre a marqué une étape supplémentaire dans les violences contre les journalistes, comme le raconte Jorge Carrasco, le directeur du journal.
Les assassinats de journalistes au Mexique ont commencé à partir des années 2000. Et jusqu'en 2010, les assassinats visaient des journalistes de presse locale. En 2012, quand Regina était assassinée, les délinquants ont envoyé un message très fort. À ce moment-là, la barrière qui protégeait les journalistes de la presse nationale s'est rompue. C'était la démonstration qu'eux aussi pouvaient être visés.
La mort de Regina Martinez est également emblématique de la défaillance des autorités qui ont rapidement conclu à un cambriolage qui aurait mal tourné. Jamais l'enquête officielle ne s'est intéressée au travail journalistique de Regina Martinez sur les responsables de l'état du Veracruz. Une piste pourtant sérieuse, comme le confirme un haut fonctionnaire. Nous avons modifié sa voix.
C'était une journaliste qui dérangeait. Elle avait déjà écrit plusieurs reportages qui ne touchaient pas seulement à l'image des politiques, mais aussi à leur richesse. Je pense que ce sujet a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ils se sont dit, ça suffit, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut faire quelque chose.
L'actuel président mexicain s'est récemment dit favorable à ce qu'une nouvelle enquête indépendante soit menée sur la mort de la journaliste.
Abdelhak El Idrissi. Au Venezuela, c'est sans surprise le parti du président Maduro qui a remporté les élections législatives selon les premiers résultats tombés ce matin. L'alliance autour du PSUV l'emporte avec plus de 67% des suffrages, mais le scrutin a été marqué par une forte abstention estimée pour l'instant à 31%. Une abstention que le correspondant de France Culture à Caracas, Benjamin Delisle, a pu constater toute la journée d'hier dans les bureaux de vote. Son reportage.
Le collège José de Jesús Arrocha se trouve au pied de Petare, le plus grand quartier populaire du Venezuela. À quelques minutes de la fermeture, ce bureau de vote est toujours bien vide. Un conseiller municipal chaviste, Reynaldo Rios, confirme que peu de monde est venu voter.
Dans ce bureau, où il y a près de 8000 électeurs, environ 1500 ont voté pour l'instant. On pense qu'on part sur 30% de participation environ.
À Katia, un autre quartier populaire à l'autre bout de la capitale, les électeurs ne se pressent pas non plus pour voter. En sortant du bureau, Jordi l'explique assez facilement.
Les gens ne viennent plus parce qu'ils sont blasés par la crise.
Pas de surprise à Chacao, quartier d'opposition, aux grandes dames des rares électeurs comme Virginia, 82 ans.
Je suis surprise. Comment ces gens comptent s'exprimer sans voter? C'est un moyen d'envoyer un message à ce gouvernement qui ne nous plaît pas.
Si la plupart des Vénézuéliens assurent n'avoir jamais vu si peu de monde, le chef du parti chaviste, Diosdado Cabello, assure que la participation n'a rien d'anormal.
La participation est du même ordre que les anciennes élections parlementaires. Les gens se mobilisent plus pour les élections présidentielles que pour les autres.
Reste qu'en 2015, la participation a dépassé les 75%, un chiffre inaccessible cette fois-ci du fait du boycott de l'opposition.
Benjamin Delisle.
8h09 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. 11 000 nouvelles contaminations en 24 heures. 24 heures. C'est le dernier bilan de la propagation du Covid en France, soit bien au-delà de l'objectif de 5000 cas par jour fixé par Emmanuel Macron pour lever les mesures de confinement le 15 décembre.
Oui, le taux de positivité, quant à lui, ne baisse plus depuis 3 jours à 10,7% de personnes testées positives sur le total des personnes testées. En revanche, le nombre de patients en réanimation a continué de refluer, ainsi que le nombre de morts. 175 personnes sont mortes du virus hier contre 216 samedi et 284 vendredi. Pas de quoi attendre un miracle pour les entreprises qui ne sont pas concernées par la levée partielle du confinement. Et en premier lieu, l'hôtellerie-restauration. Le gouvernement a promis que les aides pour ces secteurs continueront jusqu'à la fin de l'année, mais les restaurateurs s'inquiètent d'effets à plus long terme et notamment la hausse probable de leurs primes d'assurance. Des assureurs que Bercy a sommé de geler leurs primes pour l'hôtellerie-restauration l'an prochain. Cet ultimatum prenait fin aujourd'hui. Bruno Le Maire s'entretient donc à 11h avec les dirigeants des plus grands groupes d'assurance par visioconférence. Bonjour Anne-Laure Jumet.
Bonjour.
Le locataire de Bercy attend des actes, sinon, prévient-il, les assureurs seront taxés.
Oui, c'est en ces termes que le ministre a mis la pression sur les assureurs. Un chantage scandaleux a dénoncé hier le patron d'AXA France. Il n'empêche, les assureurs ne devraient pas arriver les mains vides ce matin. Le gel des primes pour le secteur de l'hôtellerie-restauration est un geste beaucoup moins coûteux que la taxe qui plane au-dessus de leur tête. Cette taxe a été votée au Sénat dans le cadre du projet de loi de finances 2021. Elle coûterait au secteur 1,2 milliard d'euros. Ce gel des primes est raisonnable et intelligent, a d'ailleurs dit ce matin le directeur général de la Maïf, laissant entendre qu'un accord était proche. Depuis plusieurs mois, le monde de la restauration est en conflit ouvert avec les compagnies d'assurance, accusant ces dernières de ne pas couvrir leurs pertes d'exploitation liées à la fermeture de leurs établissements. Devant les tribunaux, ils ont parfois obtenu gain de cause, parfois non, certaines clauses pouvant laisser le champ libre à l'interprétation des juges. Ces dernières semaines, de nombreux professionnels ont d'ailleurs reçu des avenants à leur contrat à prendre ou à laisser, excluant l'indemnisation pour cause de pandémie. Ça a fini de mettre le feu aux poudres. Outre le gel des primes pour ce secteur, les compagnies d'assurance devraient prendre d'autres engagements ce matin. On parle de gestes pour l'ensemble des petites entreprises bénéficiaires du fonds de solidarité. Bruno Le Maire aurait aussi aimé arracher des économies pour les assurés automobiles, mais ce sujet fait l'objet de résistance de la part de la profession. Si les accidents de la route ont bien diminué avec le confinement, d'autres sinistres ont explosé, rappelle la Fédération française de l'assurance, qui estime le surcoût à 2 milliards d'euros.
Anne-Laure Jumet, merci. Autre sujet à l'agenda gouvernemental ce lundi, la loi climat. Le texte est censé reprendre, on le rappelle, une partie des propositions formulées par les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat, qui assisteront d'ailleurs à la présentation de la loi par visioconférence. Ils avaient proposé 146 mesures en juin dernier. 40% de ces dernières doivent être reprises. Beaucoup trop peu, estiment-ils déjà, et ils craignent plus de renoncement que d'avancer. Écoutez à ce sujet Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts.
Emmanuel Macron se moque du monde. J'apporte mon plein soutien évidemment à Cyril Dion ainsi qu'aux 150 citoyennes et citoyens qui ont fait un travail phénoménal, clé en main, qui peut d'ores et déjà être appliqué pour engager la transition écologique dans la justice sociale. Et le président de la République s'est engagé par trois fois de manière solennelle, publique, à reprendre sans filtre la quasi-intégralité des propositions. Et là, il fait un virage sur l'aile, un retour en arrière. C'est vraiment pire que Hollande, en fait. Mais pour le coup, là, il assume un mensonge. Il s'est engagé, et ni sur la publicité, ni sur la 5G, ni sur le glyphosate, ni sur la rénovation thermique, il n'y a rien qu'à la hauteur. Voilà. La vérité, c'est que ce président de la République, il nous emmène dans le mur, et il a fait exactement aux 150 citoyens et citoyennes de la Convention ce qu'il a fait aux Gilets jaunes, un grand débat, de la diversion, des engagements et des mensonges.
Julien Bayou avec Bernard Thomasson. Enfin, on le savait déjà, mais cette fois, ce sont les données publiées par le service de suivi climatique européen Copernicus qui le confirment. L'Europe a connu son automne le plus chaud jamais enregistré. Les températures du mois de novembre y ont été supérieures de près de 0,8 degrés par rapport à la période de référence standard. Il est presque certain désormais que 2020 deviendra l'année civile la plus chaude jamais connue en Europe. Alpes. Un mot de météo tout de même pour vous dire qu'en ce lundi 7 décembre, eh bien, il fera froid. Dans beaucoup de régions, en tout cas sur l'Alsace et près des frontières du Nord, de la neige à partir de 300 mètres, parfois en plaine, du Berry et Bourgogne-Franche-Comté jusqu'à Rhône-Alpes, matinée nuageuse et parfois pluvieuse. Sur le reste de la moitié nord, temps calme. Dans le sud, en revanche, une nouvelle perturbation va s'installer de la façade atlantique jusqu'aux Pyrénées puis au Massif central. Les températures comptées au plus chaud de 2 à 13 degrés cet après-midi du nord au sud.
Merci beaucoup Anne-Laure Chouin. Dans 30 minutes environ, vous retrouverez nos camarades Hervé Gardette pour sa transition, Géraldine Mosna-Savoie pour son carnet de philosophie et Arnaud Laporte pour la parole aux artistes. Dans quelques instants, on va évoquer la pandémie de Covid-19 et les vaccins comme solution, et notamment des vaccins d'un type un peu spécifique, des vaccins dits à ARN messager. Qu'est-ce que ça signifie? On en parlera avec Bruno Sargueil, directeur de recherche au CNRS, et Anne-Claude Crémieux, qui est professeur en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis. Et puis un billet politique avec vous, Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour Guillaume.
De quoi allez-vous nous parler dans quelques instants?
Nous nous demanderons si Emmanuel Macron s'éloigne de ses engagements sur le climat.